Nous allons reprendre, si vous voulez bien. Et pour cette seconde partie, pour ce séminaire, notre invité est aujourd'hui Jacques Rancière. Je me souviens de des premières choses que j'ai lues de lui, c'était en 66 ou 67. C'était donc lire Le Capital, à un moment où beaucoup de jeunes gens lisaient ça. Mais son œuvre a beaucoup changé depuis cette époque. Et si je l'ai invité, c'est parce que il est philosophe, mais beaucoup de ses ouvrages, surtout dans la période récente, ont parlé, et de plus en plus, de la littérature. Je pense notamment à son livre sur Mallarmé, publié il y a une dizaine d'années, et à plusieurs livres publiés sur la littérature, comme La chair des mots, en 1998, La parole muette, en 1998, et surtout, il y a deux ans, Politique de la littérature. Et c'était après avoir lu Politique de la littérature que je l'avais invité l'an dernier, dans le cadre du séminaire qui était intitulé alors Morale de Proust. Peut-être que ça convenait mieux que dans le cadre d'un séminaire qui est cette année intitulé Témoigner, mais j'avais envie qu'il vienne parler ici, et donc même si le thème avait changé, je souhaitais vous inviter. Voici qui est chose faite, et vous nous avez donné un titre très général, Témoignage et écriture. Merci encore d'être venu ici.
Bon, merci donc à Antoine Compagnon pour cette invitation. J'avais donné un titre effectivement très général parce que je ne sais jamais si longtemps à l'avance de quoi je parlerai. Cela dit, je pense que, comme je n'ai pas pu suivre ce séminaire, mais qu'au moins, à la vue de la liste de ceux qui y ont parlé, je pense que ce que je vais dire n'est pas complètement étranger aux questions de ce séminaire, puisque la question que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est celle de la constitution de la figure du témoin comme porteur d'un mode spécifique de la parole et d'un rapport spécifique entre parole et vérité. Cette constitution, on sait qu'elle a été opérée essentiellement à travers une réflexion sur les récits de l'extermination des Juifs d'Europe. J'emploie le terme « extermination » pour sa neutralité, pour ne pas entrer dans les querelles politiques et théologiques qui portent sur la propriété de termes comme « holocauste » ou « Shoah ». Donc la question que je voudrais traiter est une question purement de poétique au sens large du terme, à savoir, question de définition du statut d'une écriture, du rapport de cette écriture à d'autres écritures et du rapport de cette écriture à une vérité. Cette question, je la poserai donc à partir d'une brève déclaration, un avertissement des éditeurs qui introduit le livre d'un témoin, qui figure un peu au premier rang de ceux justement autour duquel s'est constituée la figure du témoin, à savoir le livre de Philippe Müller, « 3 ans dans une chambre à gaz d'Auschwitz ». Je lis donc cette introduction signée les éditeurs. Philippe Müller n'est pas un écrivain. Il a vécu une expérience horrible, unique, au-delà de l'imaginable. Témoin direct et impuissant du martyre de tout un peuple, il a cependant miraculeusement survécu et décidé, après avoir surmonté les limites extrêmes du désespoir, de se souvenir plus de 30 ans après avoir échappé à l'enfer, afin que nul n'oublie. Respectant à la lettre son exceptionnel témoignage, nous nous sommes interdits d'y apporter la moindre modification. Document historique à l'état brut. Il nous est apparu essentiel de le publier tel quel, dans sa forme strictement originale. Toute manipulation à des fins esthétiques ou littéraires en aurait, selon nous, totalement annihilé le sens et la portée. Donc, je partirai de cet avertissement, et tout particulièrement, bien sûr, de la manière dont la parole du témoin y est définie à partir d'une négation initiale. Philippe Müller n'est pas un écrivain, ce qui est repris à la fin, à savoir que, en disant qu'il n'y a là aucune manipulation esthétique ou littéraire. Bon, à la fois, c'est un type d'argumentaire auquel nous sommes habitués, l'opposition du document brut au travail littéraire présenté comme manipulation effaçant la force de vérité du document. Mais pourtant, cette bonne rhétorique un peu convenue laisse subsister plus d'un problème. Et d'abord, le problème le plus immédiat, c'est au fond, est-ce que cette déclaration liminaire est bien nécessaire ? Pourquoi faut-il dire ici que l'éditeur s'est interdit la moindre modification, qu'il a gardé la forme originale telle qu'elle ? En général, quand on déclare ça, souvent, c'est quand on publie un texte qui heurte les usages habituels de la langue. Un texte, disons, brut, agrammatical, incohérent, le livre d'un autodidacte. Et bon, effectivement, ces livres-là, éventuellement, les historiens les publient comme documents bruts. Mais dans ce cas, justement aussi, les mêmes historiens ne se privent pas d'accompagner le document brut de commentaires pour nous dire de quoi ce texte parle et pourquoi il en parle comme il en parle. En effet, un document brut, en un sens, c'est simplement un document qu'on laisse conforme à sa forme originale, donc qui porte la trace de son mode de production. Donc, un document brut, en un sens, c'est simplement un document qui témoigne de l'authenticité d'un processus et d'une pratique d'écriture. Cette pratique, ça peut être celle d'un scripteur institutionnel, et dans ce cas, l'historien s'attachera, dans son commentaire, à marquer les codes auxquels le document obéit. Ça peut être celle d'un scripteur non autorisé. En ce cas, l'historien en général s'attachera à définir la spontanéité d'une perception, mais aussi la limite du champ de vision. Mais dans un cas comme dans l'autre, que la perception soit spontanée ou que l'enregistrement obéisse à des codes, ça ne dit encore rien sur la vérité du contenu. Ça dit simplement ce qu'a été le vécu d'un individu lorsqu'il a écrit ce document. Bon, donc problème général, qui se redouble d'un problème tout à fait particulier en ce cas. Philippe Müller n'est pas exactement un individu simple, un autodidacte livrant son vécu. Il a travaillé son livre de nombreuses années et, à ce qu'on peut en juger à travers la traduction, il n'écrit pas différemment de la moyenne des écrivains. Donc il n'y a pas de raison nécessairement d'en appeler au caractère brut du document historique. Ou alors c'est que témoignage veut dire autre chose que document brut. Ça veut dire un mode singulier, exceptionnel, de la parole. Et au fond, ce que l'affirmation veut établir alors, c'est l'existence d'un lien indéfectible entre cette écriture et ce dont elle parle. Donc, que ce n'est pas simplement là un témoin qui dit les choses comme il les a vues, perçues, ressenties, mais un témoin qui dit les choses comme elles ont été, ou un témoin dont les paroles ne sont pas dissociables de la réalité dont elles parlent. Le problème empirique, c'est qu'en général, cette indissociabilité se prouve par deux critères. Premièrement, un critère de proximité, c'est-à-dire que le témoignage est généralement considéré comme d'autant moins dissociable qu'il est plus proche de l'événement dont il témoigne. Et deuxièmement, un critère de nécessité, c'est-à-dire que le témoignage est reçu comme d'autant plus vrai, disons qu'il est moins le résultat d'une décision. Or, ici, ces deux règles sont strictement contredites, puisque, disons, il y a eu 30 ans de distance entre les événements et le récit, et puisqu'on nous dit que l'auteur a décidé de se souvenir. Donc, on peut penser alors que cette déclaration liminaire, globale et insistante de non-littérarité est une manière de répondre à ce paradoxe du témoin qui est radicalement vrai, bien que les critères normaux d'appréciation ne soient pas respectés. Cette déclaration de non-littérarité, on peut l'interpréter d'une manière simple, trop simple. Sous la forme d'une sorte de syllogisme, l'éditeur dit « Nous n'avons rien ajouté au récit brut. Le récit brut nous parle de quelque chose qui n'est pas imaginable, donc rien n'est littéraire, donc tout est vrai. » Mais cette manière de poser les choses, pourquoi est-ce qu'elle est trop simple ? Parce que, au fond, en assimilant le littéraire à l'imaginé, elle laisse entendre que la question de la vérité du témoignage est celle de l'exactitude des faits rapportés. Or, ce qui est en question dans le témoignage, et dans le témoignage tel qu'on veut le constituer ici comme mode spécifique de la parole, c'est précisément que ce qui est en jeu n'est pas simplement l'exactitude des faits, mais la vérité d'un processus. Ce dont le témoin témoigne, ce n'est pas simplement de ce qui s'est passé tel ou tel jour de 1942 ou 1943, et qui a fait quoi ce jour-là. Le témoin témoigne du fait que ce dont il parle est un processus global qui mérite le nom d'extermination, ou en allemand de Vernichtung. Mais si en est ainsi, la question du rapport d'opposition entre témoignage et littérature ne peut pas se ramener à la question du rapport entre réel et imaginaire. En évoquant ici, même négativement, la littérature, ce qu'on évoque, ce n'est pas simplement la parole ornée ou le récit imaginé. Disons ce qu'on fait venir, c'est la question, bon, beaucoup plus, disons, importante, quel type de vérité est-ce qu'un agencement de mots peut donner à un ensemble de faits ? Et s'il en est ainsi, la déclaration que ce n'est pas du tout littéraire, pas du tout esthétique, peut peut-être être pensée comme la déclaration d'une certaine esthétique et d'une certaine idée et pratique de la littérature contre une autre. Bon, c'est ce que je voudrais examiner, cette hypothèse que je voudrais examiner, en confrontant la position du témoin construite par ce texte avec deux figures classiques de la poétique du témoignage. Et en examinant à chaque fois le nœud constitué entre deux questions, de quoi est-ce que le témoin témoigne au juste ? Et deuxièmement, comment se manifeste que c'est de cela qu'il témoigne ? La première figure, je l'illustrerai à partir de la distinction entre deux types de témoins qui se trouvent au premier livre de la rhétorique d'Aristote. Première distinction qu'opère Aristote est une distinction entre les anciens témoins et les témoins récents. Et voici comment il commence. J'entends par témoins anciens les poètes et tous les hommes illustres dont les jugements sont de notoriété publique. Par exemple, les Athéniens ont pris Homère à témoin au sujet de Salamine, naguère les Ténédiens, Périandre de Corinthe contre les Sigéens, etc., etc. Et disons, ce petit passage se conclut par « Ces témoignages portent sur le passé. Pour l'avenir, on invoque les diseurs d'oracles comme Phitémistocle pour conseiller de livrer bataille sur mer en citant le mur de bois. Les proverbes sont encore, comme nous l'avons dit, des témoignages. Par exemple, ceux qui dissuadent de prendre un vieillard pour ami s'appuient sur le témoignage du proverbe « ne jamais rendre service à un vieillard ». Et ceux qui conseillent de supprimer les fils après les pères, ceux qui, après avoir tué le père, laissent la vie au fils. Donc, disons, introduction, entrant en matière un peu étrange par rapport à ce que nous entendons, nous, comme témoignage. Donc, première division, les anciens témoins et les témoins récents. Et parmi ces témoins récents, deuxième distinction, à savoir, premièrement, les hommes notables qui ont produit un jugement sur quelques points, et deuxièmement, les hommes qui ont part à l'affaire jugée. Classification étrange, et nous avons tendance à penser que seuls les derniers, ceux, les hommes qui ont pris part à l'affaire d'une manière ou d'une autre, disons, sont des vrais témoins. Or, bon, apparemment, ceux-ci sont au contraire tout en bas de la hiérarchie implicite dans la classification d'Aristote. Bon, pour deux raisons. Premièrement, un témoin qui a part à l'affaire est un témoin qui y est intéressé. C'est-à-dire un témoin qui peut toujours être un faux témoin. Et d'où ce passage surprenant qui met en balance, un peu après, la valeur des vraisemblances et celle des témoignages. Où ce qui fait la vertu des témoignages, même si c'est une vertu bon, limitée, est un argument absolument irréfutable. Les vraisemblances ne se laissent pas acheter. Elles ne peuvent pas mentir pour de l'argent. Bon, premier point, tout témoin, en quelque sorte, qui a part, est un témoin qui peut être un faux témoin. Deuxième point important, ces témoins participants impliqués ne parlent que sur l'existence d'un fait. Ils disent si ça a été ou non. Ils ne se prononcent pas sur le poion, sur la qualité du fait. Ils ne disent pas si ça a été juste ou non, utile ou non. Et c'est là que, s'introduit le privilège des anciens témoins, ou, comme le dit Aristote, de ceux qui viennent de loin. Ceux-là, dit-il, sont, disons, ceux qui méritent la plus grande créance. Les anciens sont ceux qui sont les plus fiables, car ils sont incorruptibles. Dans incorruptibles, on entend bien sûr à la fois qu'on ne peut pas les acheter, et deuxièmement, bien sûr, qu'ils subsistent inaltérables. Donc, les anciens témoins, donc ceux qui pour nous ne sont des témoins de rien du tout, sont les vrais témoins. Bon, pour deux raisons. Deux raisons, c'est qu'au fond, le témoin qui compte est celui qui permet de juger, non pas simplement de l'existence d'un fait, ce dont témoignent les témoins qui ont part, mais celui qui, juge de la justice d'un fait. Et celui qui donne en quelque sorte des règles sur la manière de qualifier un fait. Donc celui en quelque sorte qui, par le fait, nous donne des exemples de formes d'accord entre les situations et les jugements. Entre, disons, donc d'où l'importance, bien sûr, pour établir la qualité des faits dans cette logique, de la qualité du témoin, de la notoriété du témoin, comme quelqu'un qui a fait de grandes choses et prononcé des paroles qui ont été conservées à la postérité. Deuxième argument, c'est que, deuxième raison de ce privilège des anciens témoins, c'est que la question du témoignage déborde largement celle de la preuve judiciaire. Elle est celle du jugement en général, et elle est celle de la transmission. De la transmission des faits qu'on juge dignes d'être retenus, et transmission des manières de qualifier ces faits et les leçons qu'ils véhiculent. La question de la transmission, c'est la question de l'autorité. Qui, disons, celui qui a autorité pour qualifier les faits, c'est celui qui a autorité pour transmettre le tissu d'expérience qui relie les situations au jugement ou les mots aux faits. Le témoin idéal, en un sens, c'est celui qui réalise lui-même l'union entre la participation à des faits notables et l'autorité de la parole qui noue ces faits à une valeur d'exemple. Bon, on a là une certaine idée du témoin, assurément très loin de notre idée à nous, mais qui caractérise toute une culture rhétorique, toute une tradition historienne, où l'histoire est le recueil conjoint des hauts faits, par lequel, disons, des hommes ont été notables, et des leçons qu'on peut tirer de ces hauts faits. Et bon, toute la tradition que les historiens savants du XXe siècle ont dénoncée comme histoire chroniqueuse, l'histoire écrite autour d'un certain type de témoin, l'homme noble dont la capacité à produire de hauts faits atteste en même temps la capacité à produire des paroles dignes de foi. Au fond, le témoin dont le statut est tel qu'il ne peut pas mentir. Bon, je vous renvoie pour cela, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, à l'introduction des chroniques de Froissart, qui développe en quelque sorte cette espèce de logique, en quelque sorte, selon lequel c'est celui, disons, qui a fait des hauts faits, qui est capable, de dire le vrai sur ses hauts faits, parce qu'il ne peut pas mentir. Donc, bon, cette idée du témoin comme transmetteur, en quelque sorte, d'une espèce de continuité de l'expérience, nous pouvons la penser loin de nous, pourtant, elle subsiste encore, fût-ce à titre de repère de ce qui n'est plus possible, de ce qui est fini, dans des pensées beaucoup plus proches de nous. Je pense particulièrement, bien sûr, au texte célèbre de Walter Benjamin sur le narrateur ou le conteur, comme on voudra. Le narrateur, c'est celui dont la parole est toujours précédée par de la parole, qui redit des histoires qu'il a entendues comme quelque chose qui est déjà dit, déjà entendu, et qu'il continue. Transmettre une histoire, alors, c'est transmettre l'acte de les transmettre, transmettre le tissu d'une expérience, le tissu dans lequel les faits sont toujours liés à des mots, les histoires à d'autres histoires et les histoires à leurs leçons. Donc, bon, ce qu'il y a, cette figure du narrateur, c'est une consubstantialité entre l'art de raconter et celui de conseiller, qui, véritablement, on peut dire, prolonge cette espèce de tradition rhétorique. Or, dit Benjamin, nous sommes en rupture par rapport à cela, et on peut dire, bon, rupture, disons, factuelle. Rupture factuelle, c'est, dit-il, ce qui a été éprouvé, notamment sur les champs de bataille de 14-18. Les survivants se sont montrés incapables de raconter, pas seulement, comme on l'a dit, parce que l'événement rend muet, c'est le trauma, le choc qui coupe la parole, mais essentiellement parce que l'expérience vécue qu'ils ont connue, n'est plus balisée par aucune des formes d'intelligibilité et de dissibilité de l'expérience, aucune de ces formes qui gouvernaient la transmission de l'expérience. Bon, rupture, on peut dire factuelle, rupture textuelle, et en un sens, la rupture textuelle de cette espèce de tradition de transmission de l'expérience, c'est proprement la littérature. Et c'est notamment bon, le roman que Benjamin oppose au conte. Le roman, c'est la continuité rompue. Le lecteur n'est plus en compagnie d'un conteur qui le fait entrer dans un univers déjà existant, de choses racontées. Le lecteur est seul en face d'un événement qui a l'air de se produire pour la première fois, seul en face d'une matière à dévorer, d'un destin étranger dont la flamme le consume, c'est-à-dire lui procure une chaleur qui, précisément, n'est plus donnée par l'énergie de la circulation continue des expériences. Donc, bref rappel, cette première figure du témoin. Cette deuxième figure du témoin, bon, je l'évoquerai ici rapidement également, à partir d'un texte qui est l'appendice rajouté à l'évangile de Jean. Bon, l'évangile semble conclu, or, bon, il y a encore, je crois, dans les éditions récentes de la Bible de Jérusalem, ce rajout qui n'est pas clairement indiqué comme apocryphe, un rajout qui est en gros en deux parties. Première partie, c'est le récit d'un nouveau miracle. Les disciples, donc tout ça se passe après, donc disons, la résurrection, l'ascension. Donc, récit d'un nouveau miracle. Disons, les disciples sont partis pêcher la nuit sur le lac de Tibériade. Ils ne prennent rien. Mais au matin, bon, il y a un homme sur le rivage qui leur dit « Jetez le filet à droite et vous en trouverez ». Ils le font, ils en prennent. Et Jean dit à ses amis, c'est le Seigneur. À ce moment-là, suit toute une série d'épisodes pittoresques. Bon, Pierre se jette à l'eau pour rejoindre le Seigneur, donc, qui est sur la rive. Mais pour cela, nous dit le texte, il met son vêtement car il était nu. Et bon, enfin, bon, il se met à l'eau, ils arrivent, et en arrivant, ils voient une espèce de petit brasero, du poisson dessus, du pain à côté. Le Seigneur leur dit « Apportez les poissons ». Le filet, nous dit-on, est plein à craquer. On nous donne même le nombre des poissons, 153. Et pourtant, dit-il, le filet ne craque pas. Puis on passe à table. Donc, tout un récit du témoin ici, bon, qu'on voit très en rupture par rapport, disons, à la figure aristotélicienne. Ici, bon, le témoin ancre son témoignage sur le Messie, dans un univers concret, disons, les heures du jour, les gestes familiers, les petites scènes, etc. C'est donc une scène dans le genre de celle que Erich Auerbach a choisie dans Mimesis pour montrer le rôle initiateur du Nouveau Testament, initiateur du réalisme romanesque. Bon, l'épisode que choisit Auerbach c'est l'épisode du reniement de Pierre, où il insiste un petit peu sur tous les éléments, en quelque sorte, description du vécu. Description de l'auberge, les soldats, Pierre qui vient se chauffer auprès du feu, la servante qui le reconnaît et qui l'interpelle familièrement, etc. Il y a là, nous dit Auerbach, quelque chose de nouveau, à savoir la suppression d'une hiérarchie, qui était la hiérarchie opposant la grande histoire, le grand destin collectif, avec la vie quotidienne. Ici, précisément, la grande histoire, le grand destin est d'un peuple est lié avec le décor quotidien et les menus faits de l'existence des simples gens. Et de fait, bon, on peut dire que ce qu'Auerbach pointe là, c'est l'ancrage du récit dans des petits faits qui est destiné à devenir de fait un certain critère de véridicité romanesque, quitte à se laïciser. Et quand je parle bien sûr de figure de laïcisation, je pense particulièrement à Diderot et à l'art du bon conteur, qui est rappelé à la fin des deux amis de Bourbonne et opposé au mensonge de l'éloquence et à l'illusion de la poésie. L'art du bon conteur étant de parsemer justement son récit de petites circonstances si liées à la chose et toutefois si difficiles à imaginer que vous serez forcé de vous dire en vous-même, ma foi, cela est vrai, on n'invente pas ces choses-là. Mais bien sûr, il y a quelque chose de perdu dans cette laïcisation de la petite scène ou de l'effet de réel, comme le dira Barthes. C'est qu'un témoin n'est pas simplement celui qui dit des faits advenus afin de les faire tenir pour vrais ou qui invente des faits de telle manière qu'on les tienne pour vrais. Un témoin, c'est quelqu'un qui qualifie des faits, qui inscrit ces faits dans le processus de vérification d'une vérité. Et en l'occurrence, bien sûr, dans cet épisode final, ou on peut dire supplémentaire de l'évangile de Jean, le détail des faits, ces petits faits vrais qui disent que le témoin a bien été là, qu'il peut le dire, bon, ce détail des faits n'est lui-même attesté que parce que ce que le témoin dit a déjà été écrit. L'épisode qu'il raconte en répète un autre. Cet épisode qu'il répète était lui-même attesté parce qu'il accomplissait une parole de l'Écriture qui l'annonçait, qui le préécrivait. Donc, je dirais, le nouage de la véridicité du récit à la petitesse des faits, il s'inscrit ici dans cette espèce de pli par lequel l'Écriture vérifie les paroles par les faits, l'Écriture avec un grand E ici, bien sûr, vérifie les paroles par les faits et les faits par les paroles. Autrement dit, ce petit passage réaliste s'éclaire, bien sûr, à la lumière d'autres passages de l'évangile de Jean, où la question de la valeur du témoignage est directement posé à travers les questions des Juifs. Comment peux-tu te répondre témoignage à toi-même ? Et les réponses du Christ, c'est le Père qui me rend témoignage par les actes qu'il me fait faire et par l'Écriture, par sa parole qui m'annonce et qui annonce ses faits. Autrement dit, ce qui témoigne, c'est l'articulation entre la matérialité des faits accomplis par des corps et le tissu de l'Écriture qui les qualifie. Le texte est vérifié par les corps, l'action des corps est vérifiée pour ce qu'elle est par le texte. Et on peut dire que cet appendice pousse un petit peu ce nouage des paroles à la réalité des corps, un peu jusqu'à la caricature, notamment dans le deuxième épisode, on peut dire, qui le constitue, où le Christ dit à Pierre, « Suis-moi », et Pierre, disons, désigne Jean en disant, « Et celui-là ?» Et le Christ répond, « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Autrement dit, bon, disons, cet épisode final inscrit le texte de l'évangile de Jean comme en quelque sorte la permanence, on peut dire, la permanence du corps du Christ entre sa disparition présente et son retour. Et son retour le dernier jour. Donc le texte dit que celui qui a écrit ce texte a bien été désigné pour l'écrire, c'est-à-dire pour assurer la continuité entre l'exposition des corps et la vérité des mots. Donc, bon, voilà ces deux paradigmes du témoignage auxquels je faisais allusion. Ce qu'ils ont en commun, c'est de marquer en quelque sorte deux choses. Bon, le témoignage porte sur la qualité d'un événement et pas simplement sur l'exactitude des faits. Deuxièmement, le témoignage fonde une transmissibilité, un nouage des mots aux choses. Bon, en même temps, disons, on voit bien que ces deux formes de figure du témoignage, disons, se déplacent entre deux pôles. Il y a un pôle de l'autorité du témoin, où le témoin est d'autant plus fiable qu'il est ancien, célèbre, exemplaire, qu'il assure une autorité continue de l'expérience, et cette autre figure, la figure, disons, christique, où l'autorité se trouve liée à la présence attestée des corps, et on peut dire à leur exposition à l'extrême. Donc, d'un côté, on peut dire témoignage d'une continuité, d'un régime continu de fabrication et de transmission de l'expérience, qui veut dire aussi transmission d'une possibilité de comprendre et d'agir. Et le témoin est témoin d'un passage à l'extrême. Disons, ce qu'il transmet, c'est comme une espèce de choc absolu, disons, d'expérience absolue qui interrompt justement la reproduction de l'expérience. Bon, la question du document historique brut, je pense qu'ici il faut la penser justement à partir de cette espèce de ces deux pôles. Quoi. On sait que l'histoire comme mode de discours a d'abord été, disons, dominée par le premier modèle, que la révolution scientifique de l'histoire, justement, a voulu rompre avec ce modèle qui fondait l'histoire chroniqueuse en privilégiant les témoins muets, les témoins non autorisés, non mandatés pour témoigner. C'est-à-dire, finalement, les témoins qui ne sont pas des parleurs, donc, on retrouve toujours le problème, ne peuvent pas mentir. Parce que la question du témoin est toujours finalement celle, comment peut-on définir une parole qui ne peut pas mentir ? Donc, les témoins, on sait que les bons témoins, tels que la science historienne les définit, sont les témoins qui ne racontent pas une histoire, mais qui la portent inscrite sur leur corps, qui la portent inscrite, donc, comme écrite par l'histoire, écrite par le temps, sur leur corps même. Et donc, il est en même temps, facile de voir que cette espèce de paradigme scientifique, ce paradigme scientifique, transformé un paradigme d'abord simplement judiciaire, mais qu'il l'a transformé à travers justement quelque chose qui est de l'ordre d'une révolution dans l'écriture, à savoir, à travers cette révolution dans l'univers des discours qu'on nomme littérature. Cette révolution qui consiste en une révocation justement de la hiérarchie traditionnelle des parleurs, révocation d'une certaine autorité de la parole, celle de la parole qui norme les vraisemblances, celle de la parole qui transmet l'expérience formulée par ceux qui ont autorité. Bon, on peut dire que, on peut voir comment, à travers Balzac, Hugo, Michelet, s'est trouvé constituer cette autorité des témoins muets, on peut dire en un sens plus large, témoins muets que sont les lignes du paysage, les lézardes d'un mur, des habits démodés, des visages creusés, lesquels parlent par eux-mêmes, parlent sur le mode mutique. Autrement dit, ce qui s'est constitué là, c'est une idée du témoignage, qui est disons, importante à l'époque moderne, qui finalement articule deux modes de vérité. La vérité que je dirais religieuse, la vérité du corps témoin parce que exposé à l'extrême, du corps témoin parce que participant à la souffrance, mais, disons, cette vérité en quelque sorte étant laïcisée par son assimilation à une autre, la vérité archéologique ou paléontologique de la ruine ou du fossile, celle que Balzac développe notamment, disons, dans le développement sur Cuvier que l'on trouve dans La peau de chagrin. Donc à partir de là, c'est défini un certain type de témoignage qui prend la relève du vieux témoignage des anciens faits et des anciens parleurs qui, à sa manière, produit une nouvelle articulation entre le vécu, le quotidien de n'importe qui et le temps long de l'histoire. Simplement, il l'a fait à un double prix. Premièrement, ne donner aucune leçon. Ce qu'on transmet, disons, ce n'est plus aucune leçon des événements, c'est la couleur d'un temps. Et deuxièmement, disons, la deuxième chose, c'est que cette transmission est impropre, ce témoignage est impropre à témoigner des événements, parce que précisément, l'événement est ce qui interrompt la continuité, ce qui interrompt la continuité entre le quotidien et le temps long. Et donc, c'est bien le problème qui est au cœur de la question du témoin. La question du témoin, on peut dire qu'elle a à voir avec une faille de la rationalité historique entre l'étude de la réalité, de l'exactitude des faits et la présentation du visage, de la couleur, d'une civilisation ou d'un temps. Il y a ce point en quelque sorte qui est un peu comme un point aveugle pour l'histoire, celui où il s'agit de qualifier un événement et tout particulièrement de qualifier un événement qui fait rupture dans une continuité entre les faits et les paroles. Et c'est bien ce qui est en question finalement dans la question du témoin tel que notre petit texte l'a présenté. Comment la parole est puisque la question qui est posée, c'est comment la parole et une parole aussi différée, aussi loin dont elle parle, peut-elle opérer le témoignage de l'événement. Et on sait que la réponse particulière telle que, disons, quelqu'un comme Claude Lanzmann a pu la formuler est un renversement, au fond, de la question. Au fond, disons, seule la parole et la parole ainsi différée peut opérer ce témoignage. Cette opposition elle a peut-être été un peu obscurcie à travers la polémique opposant la parole à l'image. Mais il faut bien voir que, dans la critique de l'image, ce n'est pas la question de l'idolâtrie, etc., qui est en question. Au fond, ce qui est reproché, d'une certaine façon, à l'image, c'est d'être précisément ce témoignage qui tient, en quelque sorte, au corps de la chose elle-même. Bon, bien sûr, si on pense l'image, comme Barthes, à savoir évidemment l'image des temps de l'argentique, mais c'est aussi cette image-là qui est en jeu dans la querelle du témoignage. Au fond, disons le tort de l'image dans cette logique-là, c'est justement ce qui en faisait la valeur. Dans une logique du témoin muet, dans une logique de la continuité plus généralement. Au fond, l'image ne témoigne que d'une continuité, elle ne peut pas témoigner d'une rupture. Et le vrai témoin, à ce moment-là, c'est précisément le témoin différé, le témoin à distance, le témoin qui parle à travers une distance, une rupture de continuité. Or, cette rupture de continuité, elle se présente à nous, c'est là le point intéressant et paradoxal, essentiellement comme une impossibilité de parler. C'est ce que je voudrais voir à travers, une référence très très rapide, à travers une vision très très rapide d'un petit épisode donc de Shoah de Claude Lanzmann, le témoignage donc de l'ancien barbier de Treblinka, Abraham Bomba. Bon, si on peut donc voir ici, c'est le, au fond que disons. Si la parole dit l'événement, c'est précisément au moment où Abraham Bomba ne dit plus rien. Plus exactement, ce qui est en question ici, c'est au fond ce qui joue ici, c'est la scansion de deux termes. Premièrement, l'interruption. L'événement apparaît parce que précisément il ne peut pas parler, et c'est cela qui fait témoignage de l'événement, non pas ce que Abraham Bomba dit, mais d'une certaine façon le fait qu'il ne puisse plus dire. Et c'est ça qui, on peut dire, atteste la vérité de l'événement, qui fait témoignage de l'événement. Et deuxième moment dans ce passage, disons, c'est le moment où il reprend la parole, c'est-à-dire ce moment qui va attester la qualité du témoin, à savoir celui qui accepte de parler, mais de parler précisément à travers ou au-delà de l'impossibilité de parler, sur la base de cette impossibilité. D'une certaine façon, on va déplacer justement la problématique du témoin muet. Seul, disons, est un témoin, disons, véritable, celui que l'événement rend muet, mais qui précise, qui par conséquent, disons, mais qui pourrait parler, ne parle plus et reprend la parole. Donc c'est le témoin, en quelque sorte, qui montre ce qui le rend muet, qui fait parler l'événement lui-même en tant qu'il interrompt la transmission de la parole. Et au fond, c'est ça qui donne en quelque sorte son sens à ce petit, disons, cette petite introduction énigmatique au livre de Philippe Müller, et que Lanzmann, dans la préface qu'il fait au même livre de Philippe Müller, nous explique finalement que si cette parole est en quelque sorte une parole unique, c'est parce qu'elle est la parole, disons, d'une expérience qui est à peine transmissible, une parole arrachée à ce que cette expérience a rendu silencieux. Et donc, là, disons, l'argument des 30 ans est ainsi, en quelque sorte, comme repris par Lanzmann. Ce n'est pas un hasard si Philippe Müller a attendu 30 ans avant de se résoudre à écrire. La décision à soi seul était héroïque, parce qu'il avait parti le prix de tout dire, et qu'il savait ne pouvoir le faire qu'au prix de payer le prix le plus haut, revivre tout. Ce livre hallucinant est le livre d'un halluciné. J'ai vu moi-même Philippe Müller s'effondrer en présence de sa femme et de son fils, tandis qu'il me racontait les derniers instants des Juifs tchèques du camp des familles de Birkenau. Le passé est ressuscité avec tant de violence que toute distance s'abolissait. C'était un présent pur, le contraire même du souvenir. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que ici, la problématique du témoin, en quelque sorte, s'explique. S'explique. Au fond, disons, il s'agit précisément. Et également, d'une certaine façon, on peut dire que l'opposition de la parole à l'image est comme, en quelque sorte, levée, dans la mesure où, on peut dire, l'événement n'intervient que, finalement, n'est dit que dans la suspension de la parole. L'événement intervient comme interruption de la parole par l'irruption de l'événement lui-même, sous forme, disons, d'hallucination. Donc, d'une certaine façon, on peut dire qu'ici, l'opposition entre une logique de la parole et une logique de l'image se trouve comme levée au profit d'une poétique générale. Maintenant, cette poétique générale, disons, et je voudrais terminer là-dessus, est-ce que je peux avoir 5 minutes encore ? Voilà. Dans cette poétique générale, je voudrais quand même un petit peu, disons, regarder à quoi elle ressemble pour boucler quand même au moins mon argument, quoi. Disons, le témoin, on nous a dit, c'est le non-écrivain. Et le non-écrivain, c'est celui qui est présenté comme l'homme qui a surmonté les limites extrêmes du désespoir. Si on prend l'explicitation que donne Lanzmann, on peut dire que le témoin, c'est celui qui opère le saut qualitatif, qui fait venir l'événement au lieu de sa description. Disons, le témoin, donc, c'est celui qui permet que le passé, comme le dit Lanzmann, ressuscite avec tant de violence que toute distance s'abolit, qu'on est dans un présent pur, ce présent pur qui s'oppose au souvenir. Bon, ces mots sur le désespoir et sur l'au-delà du désespoir, à savoir ce présent pur convoqué contre le souvenir, bon, ça nous rappelle des mots que nous avons déjà entendus ou lus ailleurs, dans un contexte apparemment tout différent. Des mots dits par quelqu'un qui n'était pas le survivant d'aucune horreur, simplement un écrivain désespérant d'une seule chose, à savoir sa vocation d'écrivain, et qui, au moment où il est au fond de ce désespoir, trouve le salut dans le heurt d'un pavé inégal dans la cour d'un hôtel parisien. Bon, je parle bien sûr de Proust. Pas de Proust, disons, bon, simplement en tant que, bon, disons, pas de Proust, disons, en tant que, bon, simplement écrivain, mais en tant que Proust, disons, en tant que, justement, définissant comme une tâche de la littérature, à savoir accueillir en elle le nom littéraire, intégrer le langage muet des choses, dans des mots, des événements qui s'impriment eux-mêmes et qui font basculer la chaîne des associations d'usage que l'on nomme expérience. Et en un sens, je dirais que bon, ce passage, même si ça n'a aucun rapport, si on peut dire, même si on peut dire qu'il y a incommensurabilité des événements, ce passage, disons, du texte de Lanzmann sur Philippe Müller, qui ne peut en quelque sorte précisément en parler de l'événement qu'au prix, disons, de le revivre entièrement, d'une certaine façon, il est encore dans la logique, disons, d'un texte de Proust apparemment beaucoup plus bénin, disons, celui qui nous dit dit, disons, comment, lorsqu'il tire le livre de François Le Champy dans la bibliothèque de Guermantes, c'est un autre, disons, c'est un autre que lui, c'est l'enfant qui a lu ce livre, qui va se lever pour le lire, qui va se lever pour le lire à sa place. Événement incommensurable, assurément, mais qui, justement, mais en revanche, ce qui est tout à fait commensurable, c'est précisément cette poétique de l'écriture de l'incommensurable, qui inscrit dans le continuum des mots et des images l'élément qui rompt la chaîne, qui inscrit le silence dans la parole, qui inscrit, on peut dire, l'élément non inventable, non imaginable, dans la chaîne des inventions, l'événement dont on ne peut pas parler, qui s'imprime lui-même et fait éruption dans la réminiscence. Et c'est bien ça, d'une certaine façon, bon, qui est dit dans la notion de... C'est bien cela qui est dit bon, par Proust. Et en un sens, c'est bien en cela que la littérature met fin à l'expérience, telle que Benjamin l'a décrivée. Mais peut-être, justement, on peut renverser l'argument de Benjamin. La littérature, disons, n'est pas simplement bon, ce qui fait, qui arrête l'expérience, mais plutôt la réponse à cette rupture que conceptualise Benjamin. Et bon, il me semble que, disons, le pas de littérature qui est placardé à l'entrée du livre de Philippe Müller bon, prend alors un autre sens. Bon, il affirme la singularité d'une parole non littéraire qui transmet le choc de l'expérience extrême, inassignable, inaltérable. Mais cette affirmation est elle-même, disons, possible seulement sur la base, je crois, d'une certaine idée et pratique de la littérature. Celle qui oppose la littérature comme transcription de la résonance d'un pavé, d'une serviette qu'on déplie, d'une cuillère heurtant une assiette à l'accumulation des notations. Et disons, bon, on dira que bien sûr, il y a, disons, une différence d'importance, à savoir que l'élément spécifique du témoignage, c'est cette fameuse décision de parler. Mais encore faut-il bien voir, disons, que ce qui est en jeu ici, ce qu'on demande à Abraham Bomba, par exemple, bon, ça n'est pas de raconter tellement, de raconter des faits qui seraient ignorés, c'est de contribuer à un film qui doit faire revenir l'événement dans sa teneur propre. D'où le rôle du dispositif dans l'extrait que nous avons vu, le salon de coiffure. Il n'y a pas de nécessité factuelle à ce salon de coiffure. Il y a d'autres extraits où on voit Abraham Bomba discuter avec Lanzmann en plein air, dans les montagnes, dans l'État de New York. Bon. Mais on voit bien que le dispositif du salon de coiffure est proprement, on peut dire, un dispositif poétique, disons, où il s'agit en quelque sorte que le bruit des ciseaux joue le rôle de la cuillère, dans la cuillère, dans le salon de Guermantes, ou du marteau de l'employé qui répare la roue des trains. À savoir, il organise le dispositif de la réminiscence. Donc, le témoignage comme parole absolument singulière sur l'événement de l'extermination, peut-être qu'il relève aussi d'une poétique semblable à celle qui fait de la littérature la vraie vie, opposée au catalogue des clichés. Une poétique de l'élément hétérogène qui vient rompre la chaîne, tirer un présent pur de la continuité de l'expérience, de la continuité des expériences, des associations habituelles entre des mots et des images. Ça veut dire aussi que ce témoignage est peut-être soumis à la même aporie que, disons, que rencontre l'écrivain Proust, à savoir que l'élément hétérogène est incapable de se porter témoignage à lui-même, de présenter les marques de son hétérogénéité. Il faut donc toujours, d'une certaine façon, parce que ce qui se passe, c'est que les phrases qui disent le choc de l'hétérogène, l'impression qui s'imprime elle-même dans le livre intérieur, ces phrases-là restent des phrases comme les autres, prises dans le tissu homogène de l'écriture. Et l'image qui présente l'événement lui-même, revenant sur un visage, reste analogue aux autres. Un visage en pleurs reste un visage en pleurs. D'où il faut toujours, en quelque sorte, un supplément de mots pour dire que ces mots et ces images, disons, construisent là, justement, quelque chose comme une hétérogénéité radicale à la chaîne. Il faut toujours un supplément, et quelquefois très long, pour attester que cette écriture est l'écriture de la vraie vie nommée littérature, et non pas la notation d'observation et de souvenir de la vie dans les salons. Toujours un supplément, si bref soit-il, pour attester qu'un récit est la parole du témoin et non pas de la littérature. Toujours aussi un supplément pour attester qu'un film sur l'anéantissement des Juifs d'Europe est une œuvre d'art et non pas un recueil de témoignages. Excusez-moi d'avoir été trop long, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jacques Rancière, pour cette réflexion sur la nature du témoignage. Ce témoignage et écriture à la fin, et je crois que ça rejoint beaucoup de choses que nous avons évoquées au fur et à mesure de ce séminaire, dans les distinctions que vous avez faites au début sur ces différents modèles du témoin, chez Aristote ou dans le Nouveau Testament, je repensais par exemple à ce qui avait été évoqué à la fois par Franck Lestringant lorsqu'il nous avait parlé du martyr, du témoin et du martyr à la Renaissance, et ce que j'avais dit la première séance du séminaire sur l'analyse du témoin au début du chapitre des cannibales de Montaigne, parce qu'on retrouve là cette opposition qui est si souvent présente entre le témoin comme homme simple, celui du Nouveau Testament, et le témoin comme autorité, et Montaigne soutenant que ce qu'il nous faut justement, c'est soit l'homme simple, soit le sage, soit l'autorité, mais que ce sont tous les autres, entre les deux, qu'il faut surtout éviter, parce que ce sont eux qui donnent les faux témoins. Il faut soit l'homme simple, soit le très savant. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est, comme témoin, tout ce qu'il y a entre les deux. Tout l'entre-deux, c'est le domaine du faux témoignage.
Oui, en même temps, bien sûr, bon, la question, c'est aussi que, c'est que l'homme simple témoigne, je dirais témoigne, disons, malgré tout, témoigne pour autant que ce dont il témoigne est déjà, dans la logique testamentaire, est déjà écrit, c'est-à-dire que précisément, justement, et au fond, l'important, le problème, c'est que devient, disons, cette figure du témoignage, que devient cette figure du témoignage, disons, lorsque justement le témoignage est ramené à sa simplicité. D'une certaine façon, justement, toutes les stratégies du témoignage sont toujours des stratégies qui veulent excéder justement cette simple relation de l'homme simple. C'est-à-dire que, soit dans le cas du témoin muet, c'est finalement la chose qui témoigne, et plus simplement l'homme simple, parce que dans la logique historienne, l'homme simple témoigne simplement de son vécu, et puis rien de plus, quoi. Ou bien, disons, dans la logique, il y a cette espèce de logique dans ces textes de présentation, le témoignage de Philippe Muller. Le témoin n'est pas, d'un côté, on dit que son témoignage est brut, mais il est brut pas simplement comme celui, justement, d'un brave type qui s'est trouvé là dans une situation épouvantable, mais de quelqu'un qui témoigne d'une sorte de puissance extraordinaire de la parole, qui est justement de se dépouiller elle-même, de faire advenir une vérité de l'événement. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a toujours, cette espèce de... opposé à la figure traditionnelle de l'autorité, on peut dire la figure du témoin quelconque, du témoin qui est témoin parce qu'il est quelconque, mais qui aussi, justement, doit être, on peut dire, tellement quelconque, ou disons quelconque à un tel degré de radicalité que précisément, disons, ce n'est plus sa parole qui compte, mais c'est la vérité qui fait irruption dans sa parole.
Montaigne dit que ça ne peut arriver justement qu'avec l'homme très simple. C'est ça, puisqu'il n'ajoutera rien.
Oui.
Plus loin, quand vous évoquiez l'opposition du chroniqueur témoin et de l'histoire fondée sur d'autres traces, et notamment non plus sur la parole. Comme vous aviez évoqué la rhétorique d'Aristote au départ, je pensais que dans la rhétorique d'Aristote, il y a toutes les autres preuves et tout ce qui est indice, tout ce qui est... Donc, justement, c'est à côté des témoignages, dans la rhétorique, les autres genres de preuves sur lesquelles s'appuiera l'histoire de plus en plus, laissant de côté le témoignage. Donc c'est aussi présent là.
Bien sûr, mais en même temps, je dirais qu'il y a comme une spécificité du témoin, justement, du témoin par rapport aux indices, aux tecmeria, etc. C'est que, à savoir que l'autorité du témoin est l'autorité d'une certaine parole capable, finalement, de donner une leçon des faits, quoi. Et c'est quand même ça qui fait, en quelque sorte, le témoin qui est véritablement digne, qui est vraiment le témoin digne de foi, quoi. Alors, effectivement, même si, disons, bien sûr, les juges s'appuient sur d'autres témoignage, mais bon, ça ne s'appelle pas témoignage, justement. C'est justement ça s'appelle indice, ou on peut le traduire par indice, quoi. C'est justement autre chose, mais aussi, justement, cette espèce de figure du témoin, il faut la prendre en compte dans cette espèce d'horizon où toujours, justement, bon, ce qui en un sens est à l'origine judiciaire, bon, déborde entièrement la question du judiciaire, quoi. Et c'est vrai aussi pour le témoin muet. Le témoin muet, c'est très drôle de voir que le témoin muet, c'est une expression déjà connue dans l'histoire de l'Académie au XVIIIe, quoi. Mais le témoin muet, en gros, c'est l'épée ensanglantée, disons, qu'on trouve sur le lieu du crime, auquel cas, évidemment, qui désigne l'auteur. Ce qui est important, c'est comment, justement, après, bon, cette espèce de témoignage, en quelque sorte, de preuve judiciaire, bon, est réélaborée pour devenir, bon, le témoignage sur une civilisation, un temps, un monde, et ainsi de suite.
Et enfin, dans la dernière partie de votre exposé, il y a, bon, cette réflexion très importante sur l'aphasie comme preuve d'authenticité du témoignage, ce qui était une sorte de la résistance à la parole comme preuve de la parole vraie. Et c'est ça qu'on voit dans cette scène de Shoah, enfin, le passage par l'aphasie, pour en effet témoigner de... enfin, non pas des faits,
oui.
mais de la vérité de ces faits.
Oui, effectivement, il faut témoigner que précisément la vérité de ces faits est de, disons, de rendre en quelque sorte caduques font toutes les manières, je dirais, de décrire et de raconter, oui, des faits. C'est, bon, c'est un sens, on peut parler de l'indicible. Bon, il y a l'indicible, pas comme une espèce d'ineffable absolu, ainsi de suite, mais disons, la vérité du fait n'est effectivement, je dirais, attestée que à travers une impossibilité de parler, mais aussi impossibilité de parler, surmontée, quoi. Et effectivement, bon, cette aphasie en même temps, je dirais que c'est frappant aussi que, effectivement, que c'est, on trouve ça déjà chez Proust, quoi. Enfin, le long épisode de la maison de santé. Enfin, je dirais que la manière dont on conceptualise le passage de Philippe Müller dans une maison de santé, etc., ainsi de suite. Bon, je dirais qu'il y a quelque chose comme une espèce d'écho finalement d'une espèce de théorie plus large, finalement, de comment la vérité peut advenir dans un discours, à savoir à travers une espèce d'impossibilité, à travers une espèce de rupture par rapport au monde normaux de la parole.
Ce qui renvoie un petit peu à ce que je disais la première heure, sur cette espèce de continuum. Il faut qu'il y ait une rupture de ce continuum que Barthes qualifiait de dialectique du récit, ou Dieu sait quoi, pour que quelques vérités adviennent. Enfin, c'est pourquoi votre passage à Proust et à la nécessité de l'hétérogène pour advenir à une certaine vérité s'intégrer parfaitement dans cette réflexion.
Oui, je crois que c'est important. Et en même temps, évidemment, ça veut dire que l'affirmation de non-littérarité, en fait, disons, n'est en fait que, je dirais, que finalement, le choix d'un paradigme littéraire contre un autre, d'une certaine façon.
C'est ça. Mmh. C'est le choix d'un paradigme littéraire, de la rupture ou de la discontinuité.
Oui, en fait, c'est-à-dire de l'idée, surtout, finalement, qu'il y a quelque chose comme deux chaînes hétérogènes et qu'il faut qu'effectivement, on peut dire, la chaîne de ce qui n'est pas dit, de ce qui ne se dit pas, puisse intervenir, en fait, effectivement, s'écrire elle-même, intervenir. Et d'une certaine façon, je dirais que toute une polémique, justement, sur la question du témoignage, de l'extermination, etc., on peut effectivement la penser dans quelque chose comme, une opposition, entre Proust et les Goncourt, quoi, pour aller vite, quoi.
On va rester sur cette conclusion. Proust et les Goncourt.
Merci beaucoup.